émission, l'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Pour lui et pour les choses qui sont à lui, le temps a continué, comme pour nous, comme pour ton appartement, Xavier lui dit. Pourtant, lorsque j'étais dans l'autre temps et lorsque j'allais seul dans la maison, elle était aussi abandonnée que maintenant, et que ce n'était que lorsque j'étais avec de Sainte-Croix qu'elle semblait en parfait état. Jean lui dit, peut-être que de Sainte-Croix vit un temps qui n'est pas le tien. Xavier lui dit, cela devient de plus en plus compliqué. Jean en a assez d'être ici. Et puis il a peur qu'il leur arrive quelque chose, car ils sont venus ici d'une façon tout à fait naturelle. Xavier essaie de savoir si le temps a avancé sans lui, ou s'il a été effacé, s'il n'a jamais existé ici. Alors, il demande à des passants, à des personnes du quartier, pour savoir si on le reconnaît. Malheureusement, personne ne le reconnaît, personne n'a entendu parler de lui. Il se dit tristement qu'il a été effacé. Mais chose étrange, il a été effacé à Lyon, au temps présent, qu'il vit à Paris, et non lorsqu'il vient ici grâce à la chose. Il dit tout ça à son ami. Jean lui dit, il y a peut-être dans le temps un site où tu vis et où il y a plusieurs temps différents. Je ne vois pas comment cela peut Mais je sais que c'est la vérité, puisque moi je t'ai accompagné à une de ces expériences. Et que maintenant, nous vivons tous les deux dans une autre expérience. Et comment allons-nous trouver notre vie à Paris? Si nous avons encore une vie là-bas, elle a peut-être été effacée, effacée comme la tienne ici. Alors que ferons-nous? Xavier lui dit, je reviendrai heureux vivre à Lyon. Jean lui demande, et moi, qu'est-ce que je deviendrai? Xavier lui dit, tu vivras avec moi. Jean lui demande, comment? Sans argent, sans logement, sans avenir, et peut-être aussi que le temps nous fera changer souvent de période. Xavier lui dit, moi je serai heureux de vivre avec toi. Jean lui dit, moi aussi je serai heureux de vivre avec toi, mais avec un avenir et une vie normale, avec un travail et un salaire. Nous ne pouvons pas vivre constamment dans la précarité, avec la peur chaque matin de se demander où l'on se trouve et dans quelle vie. Xavier lui dit, c'est pour cela qu'il faut trouver le pourquoi je vis comme ça, c'est-à-dire quels sont les secrets des deux Sainte-Croix. Jean lui dit, tu as raison, mais tu as contre toi des gens beaucoup plus forts que toi et qui connaissent le secret et le pourquoi. Ils le veulent. Ils savent pourquoi ils ont besoin de toi. Mais toi, tu ne sais rien. C'est comme si tu te battais avec le vent. Tu ne sais même pas pourquoi tu te bats, tandis qu'eux savent pourquoi ils se battent. Xavier lui dit, je sais qu'ils sont plus forts et que moi, à cause de ça. Et c'est justement pour ça que je suis obligé, pour me défendre, d'enquêter pour connaître la vérité. Jean lui dit, ce sera très difficile pour toi, car certainement, ils doivent détenir une puissance extraordinaire qui leur permet de jouer avec le temps. Xavier lui dit, je pense que pour connaître le secret, il faut voir le tableau qui doit le détenir. Jean est triste. Et chaque fois qu'il se couche, il souhaite se retrouver dans l'autre monde. Pour cela, il demande à Xavier de s'unir avec lui, comme ils l'ont fait la première fois. Xavier ne veut pas et lui dit, il faut encore faire des recherches ici pour connaître la vérité. J'ai à rencontrer de Sainte-Croix, qui lui doit connaître la vérité ou une partie de la vérité. Jean lui dit, tu risques de détruire ma vie. Xavier lui dit, nous ne devons pas rester longtemps ici. Et ensuite, puisque nous ne pouvons pas nous en retourner, comme la chose de fait, nous nous en irons en voiture. Les jours passent et la vie continue pour eux. Jean essaye d'étudier sur Internet, car il a amené son ordinateur portable, mais il a la tête ailleurs. La chambre d'hôtel, malgré qu'elle ne coûte pas trop cher, il faut tout de même la payer et Xavier est obligé de trouver des petits boulots pour payer la chambre. Tout l'argent qu'il reçoit ne sert qu'à payer la chambre et il ne mange que ce que on leur donne au marché. La nuit, comme il fait très chaud, avant de s'endormir, ils vont marcher un peu dans les rues. marcher dans les rues désertes. Xavier lui dit, « Il n'y a que la nuit où je retrouve vraiment la ville. » Jean lui dit, « Je me demande comment va nous recevoir l'oncle. » Xavier lui dit, « Où ? Il ne le saura pas, car le temps se sera arrêté à Paris. Ou si l'oncle sait, il sera tellement heureux de me revoir qu'il ne me dira rien parce qu'il a besoin de moi et qu'il sera trop heureux que je sois retourné près de lui comme ça. Il pourra me surveiller. Et puis, il y a le mariage. Tout le monde tient à ce mariage, sauf moi. » Gabriel doit être dans tous ses états. Xavier regarde sa montre et voit qu'il est 15 heures. Il dit à Jean, « Ce monde-là n'est pas le vrai monde, puisque ma montre marque toujours la même heure. Cela prouve que peut-être qu'à Paris, le temps s'est arrêté. » Jean lui demande, « Comment les choses ont-elles commencé pour toi ?» Xavier lui dit, « Ça a commencé le soir où j'ai rencontré par hasard de Sainte-Croix. La vie que je menais était tranquille, et tout d'un coup, c'est devenu étrange. » Oui, étrange. Jean lui demande, « Je cherche le tableau ici à Lyon, mais à Paris, tu le voyais ?» Xavier lui dit, « Je ne le vois plus, il a disparu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il n'est ni dans le grenier, ni chez la grande tante. Il est nulle part. C'est pour ça que je le cherche ici. » Jean trouve étrange que Xavier lui dise qu'il ne voit plus le tableau à Paris ni en Bourgogne. Les jours passent, si l'on peut dire comme ça. Une nuit qui se promène dans les rues désertes et lugubres. Une voiture noire les dépasse. La portière arrière s'ouvre et Xavier voit de Sainte-Croix qui leur fait signe. Xavier dit à Jean, « C'est de Sainte-Croix !» Et il court à lui. De Sainte-Croix les fait entrer dans la voiture. Trop noir. Ankylosé, mal à la tête. Près de son lit se trouve son oncle. Son oncle lui sourit et lui dit, « Tu as été très malade. Tu as pris froid et as eu de la fièvre. » Il regarde autour de lui et voit que c'est sa chambre à Paris. Il a chaud, très chaud. Son oncle lui dit, tu n'es pas encore guéri. » Xavier a la tête dans du coton et il lui demande, « Combien de temps je suis resté inconscient. » Son oncle lui dit, « Un mois, durant ta maladie, tu as beaucoup déliré. Beaucoup déliré. » Xavier reprend ses esprits et pense qu'il n'a pas été malade, mais qu'il était à Lyon. Et c'est sûrement l'oncle, avec l'aide de ce salopard de Sainte-Croix, qui l'a ramené ici et certainement donné quelque chose pour le rendre malade et inconscient. Mais il ne dit rien, il parlera de tout ceci à Jean. Son oncle lui dit, « Il faut que tu restes encore au lit, et lorsque tu iras mieux, tu iras te reposer en Bourgogne. Gabrielle est venue à tes nouvelles quasiment tous les jours. Elle est très inquiète. Le mariage est retardé le temps que tu reprennes des forces. » Xavier se dit que s'il se marie ou non, il sera toujours surveillé. Sa tante aussi vient le voir et lui apporte des fruits. Elle lui dit, tu dois faire attention, car depuis ton accident, tu es très fatigué et rien peut te rendre malade. La preuve, c'est une simple grippe. Tu dois aussi éviter de trop penser. Cela te fatigue. Tu te poses trop de questions sur ton passé, mais tu devrais patienter et ta mémoire reviendra toute seule. C'est normal que tu cherches à savoir des choses sur tes parents, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et puis, se présente pour toi un avenir fort agréable, un mariage avec une gentille jeune fille et aucun souci d'argent. Beaucoup de personnes, à notre époque, aimeraient être à ta place. Sa fiancée vient le voir. Elle lui dit, je suis heureuse que tu ailles mieux. J'ai eu très peur. Tu avais beaucoup de fièvre. Ne te fais pas de soucis. Je m'occupe de tout pour le mariage. Il se fera lorsque tu iras mieux. Et lorsque tu iras en Bourgogne, je ferai un petit séjour avec toi. Bien sûr, nous nous comporterons bien sagement. Xavier a toujours la tête dans du coton. Il se souvient de son ami Jean. Il aimerait bien qu'il vienne le voir. Il le demande à son oncle qui lui dit, j'ai une très mauvaise nouvelle à te dire et j'aurais aimé te le dire lorsque tu aurais été mieux. Malheureusement, il faut que tu saches, Jean est mort d'un accident de voiture. Un chauffeur ivre lui est rentré dedans et il en est mort. Sa voiture a explosé. Son corps a été calciné à l'intérieur de la voiture. Tu te souviens que vous deviez passer une journée ensemble. Malheureusement, tu n'as pas pu partir avec lui car tu es tombé malade dans la nuit et il est parti seul. Et il a eu cet horrible accident. Accident. Xavier est effondré. Il se met à pleurer. Il se dit que son seul ami n'est plus. Il est sûr qu'ils étaient tous, qu'ils étaient tous les deux à Lyon et qu'on les a ramenés, lui vivant et peut-être Jean déjà mort. Cela veut dire que Jean a été assassiné. Son oncle dit, je comprends ta peine. Et moi aussi j'ai eu beaucoup de peine, car j'aimais énormément ce jeune garçon, sérieux et gentil. J'étais content que vous soyez devenus amis tous les deux. Il embrasse Xavier et le laisse seul. Xavier se dit que son ami est mort à cause de lui, parce qu'il a embarqué dans cette aventure et qu'ils auraient pu rentrer de suite au lieu de rester plusieurs jours là-bas. Jean l'avait prévenu que c'était dangereux de rester à Lyon comme ça. Ils ont tué Jean parce que Jean l'aidait à comprendre ses mystères. Il se dit que chaque fois qu'une personne aura de l'amitié pour lui ou cherchera à l'aider, cette personne risquera sa vie. Il se dit aussi que pour qu'il puisse connaître tous les mystères et venger peut-être Jean, il devra jouer la comédie et accepter ce qu'on lui propose, faire l'innocent. Il veut guérir pour pouvoir être plus libre de ses mouvements. Il prend bien ses médicaments et se nourrit comme il faut. Il reçoit avec gentillesse sa fiancée, sa tante et son oncle. Il y a son oncle. Lorsque j'irai mieux, je vais pouvoir aller sur la tombe de Jean. Son oncle lui dit, très bien, mais tu sais, le corps a été calciné. Il ne reste malheureusement de Jean que de la cendre. Xavier se dit, comme cela, on ne peut pas savoir de quoi il est mort. Xavier se rétablit vite et peut sortir de sa chambre, marcher dans l'appartement. Tout le monde est content. Un soir, après le dîner, l'oncle et sa tante sont au salon avec Xavier. La tante se retire et un quart d'heure plus tard, c'est au tour de Xavier. Dans le couloir, Xavier regarde sa montre et voit qu'il est 15 heures comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Il entend la sonnerie du téléphone. A décroché. Il entend son oncle dire « Oui, c'est moi. Tout va bien. Nous avons été obligés d'agir de cette façon, étant donné qu'il est parti là-bas d'une façon tout à fait naturelle. Nous avons fait comme il le fallait. Quant à l'autre, nous avons été obligés de l'éliminer. Il aurait été dangereux, car il l'aidait. Et il aurait pu savoir des choses. Oui, je sais, le tableau. Ça se passera bien. Je crois qu'il est tombé malade. Il croit qu'il est tombé malade. Je lui ai parlé de la mort de son ami. Il a supporté le choc. Bien sûr, cela lui fait de la peine. Mais il a cru à l'accident. Avec sa fiancée, ça se passe bien. Au revoir, monsieur. Tout va bien. Ne vous faites pas de soucis. Xavier se retire en vitesse pour aller dans sa chambre. Ce qu'il croyait était la vérité. Ils sont venus le chercher et en ont profité pour tuer son ami Jean. Il se demande ce qu'il pourrait faire. Il ne peut pas s'en aller car il le retrouverait. Il doit voir des choses qui leur indiquent où il se trouve et à quel temps il est bien prisonnier. Et Jean, qui est mort à cause de moi. Deuxième croix de Lyon doit être leur complice. D'ailleurs, c'est lorsque je l'ai rencontré que ma vie a basculé dans ce cauchemar. Mais quand je suis seul pour chercher les mystères qui m'entourent, et ce tableau, avant de partir en Bourgogne, il demande à son oncle d'aller sur la tombe de son ami. Son oncle accepte et lui dit où il est enterré. Il est dans le cimetière près de Versailles. Son oncle le mène en voiture au cimetière. Son oncle lui dit « Ne reste que des cendres. » Mais on a voulu le mettre dans un petit cercueil et enterrer. Pauvres gens. La tombe de Jean est en réalité un caveau de sa famille. Xavier a amené un bouquet de fleurs et il voit que la tombe est bien fleurie. Son oncle laisse seul près de la tombe et Xavier fait une petite prière pour son ami en lui disant qu'il se vengera et qu'il pensera toujours à lui. Qu'il a aussi du remords car c'est de sa faute s'il est mort. Une semaine plus tard, son oncle le mène en Bourgogne. Il lui dit dans la voiture « Tu devras faire attention, tu es fatigué depuis ton accident. » Ils arrivent en Bourgogne, les domestiques ont été prévenus et ont tout préparé. La soirée, l'oncle, après avoir dîné, le quitte car il ne peut pas rester à cause de ses affaires. Xavier se trouve seul dans cette immense maison au milieu d'un grand parc. Les domestiques ne font pas attention à lui et le servent comme ça. Xavier se sent désorienté après tout ce qui lui est arrivé. Et surtout après la mort de son ami. Il passe son temps à se promener dans le parc et à lire. La nuit, il rêve à Jean et à ce qu'ils ont fait ensemble, leur séjour à Lyon et malheureusement lorsqu'ils ont été pris par De Sainte-Croix. Il se dit que De Sainte-Croix fait partie des autres. De Sainte-Croix les a trahis et est responsable de la mort de Jean. Il se demande pourquoi il a agi comme ça. Pourtant, il croyait que les autres le surveillaient et que lui se cachait d'eux. Il se dit que s'il le revoit, il lui demandera des comptes. En après-midi, il se souvient du grenier et décide d'aller voir s'il ne trouve pas quelque chose. Les domestiques sont en train de se reposer au service et ne le surveillent pas pour savoir où il va. Trouve la valise où se trouvent les lettres et quelques documents. Il cherche dans les papiers. Lit quelques lettres sans importance et il tombe sur un faire-part de décès. Et voit avec surprise que le faire-part annonce la mort de la grand-tante en 1955. Alors celle qu'il a vue, l'enterrement, il ne comprend plus rien, plus rien. Il se dit qu'il doit y avoir des rapports avec les fantômes, ou qu'une personne a remplacé la morte, ou que lui a remonté le temps. Le temps s'était arrêté pour lui lorsqu'il allait à Lyon ou à Paris. Alors pourquoi ne remonterait-il pas le temps? Il ne sait plus. Il se dit que cela devient de plus en plus compliqué. Il décide de garder le faire-part de décès et de n'en rien dire. Son oncle est aussi dans le coup, puisque c'est lui qui est venu le chercher une fois chez la grand-tante. Et puis, il y a eu l'enterrement où il y était. Il ne dira rien. Et puis, il ne peut dire à personne, puisque maintenant, il est seul. Il retourne plusieurs fois au grenier pour chercher, mais ne trouve rien d'intéressant. Je me souviens aussi que le tableau était déposé dans le grenier et le cherche. On ne sait jamais, mais ne le trouve pas. Sa fiancée vient le voir. Elle lui dit qu'elle vient passer quelques jours avec lui et son oncle est d'accord. Il n'est pas content de la voir. Mais il se demande si ce n'est qu'elle ne fait pas partie du complot. Et il doit cacher son mécontentement. Une fois avoir rangé ses affaires dans une chambre qu'on lui a donnée, s'est restaurée, elle veut se promener dans le parc avec Xavier. Tout en marchant, en lui prenant le bras, elle lui dit « Il faut te confier si tu as du souci. » Il lui dit « Je pense à Jean. » Elle lui dit « C'est normal. Mourir si jeune, comme ça, c'est terrible. » Il se dit qu'elle est près de lui parce que son oncle aimerait savoir à quoi il pense. Il lui fait bonne mine. Ils vont jouer au tennis. Ils vont manger au restaurant. Elle lui parle de ce qu'elle a acheté pour leur appartement. Il ne lui dit rien. Elle lui dit, fais comme tous les hommes, ces choses-là ne t'intéressent pas. Il lui dit, bien sûr que ça m'intéresse. Et je te fais confiance, c'est à la femme de s'occuper du logement parce qu'elle s'y connaît mieux que l'homme. Elle reste une semaine et lui dit qu'elle est obligée de partir à cause de ses études, mais qu'elle reviendra sûrement. S'il reste encore un moment ici, elle lui dit « Je pense constamment à toi. » Il lui dit « Moi aussi. » Puis, elle s'en va. En se promenant seul dans le parc, au fond du parc, il tombe sur un puits qui servait de garde-manger. Il y en avait souvent dans les anciennes demeures, et ceci remplaçait le réfrigérateur qui n'existait pas encore. Le puits est entouré de broussailles et son entrée est sur un petit monticule qui ressemble à l'entrée d'une grotte où il y a une porte en bois. Xavier, qui se demande ce que c'est, pousse la porte et comme elle n'était pas fermée, il peut voir. On voit que ça donne un puits profond, sombre et plein de toiles d'araignées. Il y a encore une échelle pour descendre jusqu'en bas. Ça sent l'humidité. Il laisse la porte ouverte pour pouvoir regarder le bas, mais ne voit pas grand-chose. Il éclaire avec son téléphone portable pour regarder. Il voit au fond du puits quelque chose, un paquet. Il ne sait pas trop. Il décide de descendre à l'échelle. Plus il descend et plus cela sent l'humidité et une mauvaise odeur. En plus, il y a des toiles d'araignée. Il tient bien son téléphone portable à la main pour pouvoir voir. Une fois arrivé en bas, il est dégoûté car l'odeur d'humidité est très tenace et forte. Il se penche sur cette chose qu'il a vue d'en haut et voit que ce sont des bouts de vêtements à moitié pourris et en poussière. Cela semble être des vêtements d'enfants. Avec ses pieds, il pousse ses vêtements pour voir ce qu'il y a dessous. Et là, il voit avec surprise le squelette d'un enfant. C'est bien le squelette d'un enfant de sa taille. Le squelette est recroquevillé sur lui-même. Il semble être complet. Et il y a encore quelques petits morceaux de chair. La tête a encore un peu de chair et son crâne a quelques cheveux. Cela est terrifiant, ce squelette, avec des bouts de chair. Xavier, surpris et terrifié, se demande qui est cet enfant. Il se dit avec horreur que peut-être on l'a tué et caché le corps ici, ou que le pauvre petit est tombé dans le puits et qu'il n'a pas pu remonter, que personne n'a su qu'il était ici. Il a dû mourir de faim et peut-être aussi de ses blessures. Il regarde les vêtements poussiéreux et pourris pour pouvoir savoir depuis quand le petit se trouve ici. Mais cela est difficile, car il ne reste des vêtements que des lambeaux. Tout d'un coup, il voit au cou du squelette une petite chose qui brille. Il se penche et voit que c'est une chaîne avec une médaille, comme une médaille de baptême. Cette chaîne et cette médaille sont en or et c'est pour ça que ça a été conservé. Il soulève la médaille où se trouve gravé le visage d'un Christ. Retourne la médaille et voit qu'il a inscrit le nom de l'enfant. Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Après avoir lu le nom, il est effrayé et surpris. Ils ont tué l'enfant et caché le corps ici. Il a le courage de prendre la médaille et de la mettre dans sa poche. Il ne sait que faire pour le squelette de l'enfant et se dit qu'il doit cacher ce qu'il a trouvé, car cela risquerait d'être dangereux pour lui. Et puis, l'enfant, où il est très bien. C'est pour ainsi dire sa tombe. Il se dit, pourvu qu'il ne l'ait pas enterré vivant. Il sort du puits et décide de ne rien dire. Il se dit que si on l'a tué, ce qu'il devait, sans le savoir, avoir un secret. Ou être un secret. Mais lequel ? Peut-être, comme secret, c'est qu'il a vu lorsque le peintre était en train de le peindre. Et pour connaître le secret de l'enfant, il faut retrouver le tableau. Poursuit son séjour comme si de rien n'était. Puis, après un mois de séjour, il téléphone à son oncle pour lui dire qu'il aimerait bien pouvoir retourner à Paris. Son oncle vient le chercher. Xavier se dit que son séjour n'a servi qu'à obscurcir les questions qu'il se pose. Il reprend sa vie parisienne comme il n'a plus Jean, il reste seul dans l'appartement ou va se promener dans les rues de Paris. Gabriel vient le voir et ils sortent ensemble. Il essaye de lui faire bonne figure et lui dit qu'il se sent encore bien faible. Elle lui dit « Nous attendrons pour nous marier que tu sois complètement rétabli. » À Paris, il va dans les bibliothèques, les archives des journaux, pour voir s'il n'y avait pas un article qui parlerait de la disparition de l'enfant. Mais il ne trouve rien. Une nuit, il se réveille en sueur. Se retrouve chez la grand-tante. Il est content de se retrouver là, car il se dit qu'elle va peut-être lui dire des choses intéressantes. Il sort de sa chambre et la trouve comme d'habitude. Elle lui dit « Il y avait peut-être deux enfants. » On a été obligé de prendre l'autre pour remplacer celui qui a disparu. Celui qui a disparu est celui qui a été peint et qui a vu. Il a été le seul à connaître la chose. À moins qu'il n'y ait eu qu'un enfant. Quant à lui, le seul de Sainte-Croix, le vrai, est celui qui a été peint. Xavier ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Et puis, est-elle un fantôme ou a-t-il retourné en arrière au temps où elle vivait? Xavier lui demande si l'enfant a disparu. C'est peut-être parce qu'il a été tué. Et s'il a été tué, est-ce que vous savez pourquoi ? Elle lui répond. L'enfant du tableau est de Sainte-Croix. C'est le seul de ce nom. Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Et ils veulent donner ce nom à une autre personne. Et cette personne, c'est vous. Trou noir. Il se réveille dans sa chambre à Paris chez son oncle. Il est troublé et se demande ce que la vieille dame a voulu dire. J'aurais peut-être dû lui dire qu'il avait retrouvé le squelette de l'enfant. Cet enfant que l'on a peut-être tué et déposé le corps dans un puits où on l'a peut-être enterré vivant. Pour qu'on lui ait fait ça, c'est qu'il devait avoir un secret très important. Mais quel est le secret? Et pourquoi veut-on, lui, Xavier, lui faire porter le nom de cet enfant qui est mort? Et quelle est cette chose qu'il fait qu'il va d'un monde à l'autre? Et pourquoi sa montre indique toujours 15 heures? Va-t-il toujours être prisonnier de cette vie étrange qui le mène d'un monde à l'autre? Il n'a personne à qui se confier et se faire aider. Dans sa chambre, avant de s'endormir, il regarde la médaille de Jean-Charles Emmanuel de Sainte-Croix de la Maison de France. Un enfant de 8 ou 10 ans, plein de grâce et qui semblait gentil, a sûrement été tué parce qu'il avait vu ce qu'il ne devait pas voir. Il se sent près de cet enfant qui, pour ainsi dire, vit à sa place. Et lui le remplace parce que l'on veut qu'il le remplace. Une nuit, il est dans sa chambre à Paris. Il n'arrive pas à dormir car il a trop de problèmes à comprendre, à résoudre. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Jugnet de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.